Bonjour à tous. Vous êtes là. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la parole que j'ai pu apporter la semaine dernière. Je vous avais apporté sur les paroles dans les Actes chapitre 20. C'était le dernier adieu de Paul par rapport aux chrétiens d'Éphèse. Et là, Paul laissait pas mal de recommandations à ses ouailles. Et je me suis dit ce matin, ce serait bien aussi de faire une autre parole maintenant. Le commencement, en fait, on va voir tout au long, je vais faire une série de prédications durant les mois à venir dans le livre des Actes. Et ce matin, j'ai choisi le sujet sur le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un pourrait donner une prédication là-bas au couple Non. Ah non. Non. Je me suis trompé. Pardon. Je me suis dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit que ce matin, oui. Donc le sujet de la prédication, c'est sur le Saint-Esprit. C'est dans les Actes chapitre 2. Alors, avant de lire quoi que ce soit, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez du Saint-Esprit? Est-ce que quand on vous parle du Saint-Esprit, est-ce que ça vous parle beaucoup ou pas? Oui, quand même. De temps en temps, je vois certaines personnes qui ont une certaine méfiance vis-à-vis des manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi? J'ai l'impression que... Pourquoi il y a certaines personnes qui ont peur de parler de l'Esprit de Dieu en se disant, mais d'où vient... Enfin, et d'où vient cette crainte des dons de l'Esprit de Dieu que nous pouvons peut-être partager librement? Je pense que c'est à cause des fausses manifestations de l'Esprit que nous avons pu voir jusqu'à maintenant dans certaines églises. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dérapages dans certaines églises charismatiques. Et il faut qu'on sache que le diable fait tout pour apporter une certaine méfiance des manifestations de l'Esprit de Dieu. Son objectif, c'est de dégrader un peu l'image et même la valeur que prône la Bible. Mais il faut qu'on sache qu'il ne faut pas affaiblir le Saint-Esprit, il ne faut pas l'attrister en l'ignorant ou en lui donnant très peu de place. Mais au contraire, j'aimerais que chacun ici présent vive une vraie intimité avec l'Esprit de Dieu, que chacun expérimente la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, la puissance de l'Esprit de Dieu, ou encore la présence de l'Esprit de Dieu, n'a pas commencé avec la Pentecôte. Déjà avant, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait accordé plein d'esprits à des hommes spéciaux, dans des occasions particulières, en vue de tâches précises, notamment aux rois, aux juges, aux prophètes. Et parfois, un agent technique tel que Bezalel, chargé de présider à la fabrication du tabernacle, donc celui qui était en charge de fabriquer ce tabernacle, a été aussi béni par le Saint-Esprit. On voit aussi dans l'Ancien Testament ce désir d'être rempli de l'Esprit de Dieu à tout moment. Alors, un jour, c'était à l'époque de Moïse, vous savez qu'avec Moïse, le peuple était en pleine, itinérance, vers la terre promise pendant 40 ans. Et pendant ce voyage, deux personnes qui s'appellent Eldad et Médad étaient restées dans le camp. Ils n'étaient pas forcément dans le tabernacle, mais l'Esprit de Dieu s'est reposé sur eux et ils ont commencé à prophétiser. C'était des gens normaux, comme vous et moi. Pas des gens comme leaders spirituels. Mais le Seigneur leur avait permis qu'ils puissent prophétiser. Et à ce moment-là, Josué, donc le petit stagiaire de Moïse, en entendant ces gens-là prophétiser, il court même annoncer à Moïse et dit « Hé Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp ». Et Moïse leur dit, mais En plus, Josué dit à Moïse, « Mais empêche-les de prophétiser. » Et Moïse leur répond, « Mais es-tu jaloux? Es-tu jaloux pour moi ?» Et là, il dit une phrase très intéressante. Il dit, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » Le désir de Moïse, c'est que tout le peuple devienne prophète et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc il y avait un grand désir que tout le peuple d'Israël soit complètement béni, noyé, rempli de Saint-Esprit. Donc déjà à l'époque de l'Ancien Testament. Après, bien sûr, il y a eu tellement de prophéties sur cette onction qui va être déversée avec l'arrivée du Messie. Et je vous invite donc à lire les quatre premiers. J'ai pas mis le slide. Si vous avez une Bible, lire avec moi. Je vais vous lire de toute façon dans les Actes chapitre 2, les quatre premiers versets que je vais vous lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des uns des autres, et se reposaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà un peu jusqu'ici notre lecture. Alors, quel est le contexte? Le contexte est que après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus a une relation avec ses disciples pendant 40 jours, a enseigné, a opéré en eux une profonde transformation. Et donc, voilà, après ceci, ils ont connu vraiment un changement radical. Ils sont devenus intrépides, ils sont devenus courageux, ils ont pris courage pour annoncer, malgré les risques, la bonne nouvelle à tous, au monde entier. Et d'ailleurs, Jésus, après l'ascension, il leur a pas dit, maintenant, allez dans le monde. Non, il a dit, d'abord, recevez l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que toute l'Église devrait faire, c'est-à-dire recevoir l'Esprit de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Vous recevrez une puissance, c'est ce que Jésus a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Devant cette promesse où Jésus nous interpelle, voilà, les 120 disciples se sont réunis dans la chambre haute chez Marc et Jean-Marc pour prier. C'est le lieu où justement il y a eu le dernier repas. Ils ont prié tous ensemble pendant combien de jours? 10 jours. 10 jours, voilà. Donc, parce que Jésus était resté avec les disciples pendant 40 jours. Et après, les disciples se sont réunis tous ensemble pendant 10 jours avant la Pentecôte, avant l'effusion du Saint-Esprit. Alors, nous voyons ici que vraiment, il fallait préparer avant d'œuvrer pour le Seigneur. Il fallait qu'on soit prêt, il fallait qu'on soit rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, certains d'entre vous me diraient, mais bon, Jean, c'est bien de parler de l'Esprit de Dieu, je suis déjà rempli, c'est pas la peine d'en parler aussi régulièrement. D'ailleurs, est-ce que j'en parle régulièrement? Je pense que c'est vraiment important de se rappeler qu'il est important d'être rempli de l'Esprit de Dieu, car c'est vrai que nous ne sommes pas propriétaires de l'Esprit de Dieu. Bien sûr, à partir du moment où nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur, l'Esprit de Dieu nous a remplis, l'Esprit de Dieu nous a inspirés, et il demeure en nous et nous demeurons en lui. Mais, en même temps, nous ne sommes pas propriétaires de l'Esprit, nous n'exerçons pas de contrôle sur lui, l'Esprit est Dieu. Et du coup, nous avons besoin d'être renouvelés sans cesse comme cadeau par cet remplissage de l'Esprit de Dieu. Et c'est normal de prier sans cesse pour être rempli, et c'est très légitime et même nécessaire. Comment prier? Bien sûr, dans l'humilité, dans la repentance, pour se placer devant Dieu et en reconnaissant nos torts, comme nous avons fait là ce matin pendant la Sainte Cène. Et tout ça pour être façonné, pour pouvoir aussi mieux œuvrer, pour être participant de l'œuvre de Dieu. Donc je reviens encore au texte de chapitre 2. Voilà, Dieu s'est révélé à ces 120 personnes de façon spectaculaire par un vent violent de feu, par l'Esprit de Dieu, c'est ça, au moment du Pentecôte. D'ailleurs, le mot Pentecôte n'est pas apparu avec cet événement. La Pentecôte existait déjà avant. Ça s'appelait une fête donc juive, Shavuot, qui est aussi Pentecôte, pour fêter la moisson, mais aussi la signification de cette fête était aussi la célébration du don de la Torah. Donc, puisque le Seigneur a donné aussi ce don de la Torah, c'était aussi un moment de reconnaissance. Et à ce moment-là, vous savez, dans l'année, il y avait plusieurs fêtes juives où tout le monde venait à Jérusalem au temple pour célébrer cette fête, ces fêtes-là. Et le Seigneur Dieu a utilisé cet événement pour rassembler tous les Juifs qui étaient dans les différents pays diaspora pour que ces gens-là vivent, expérimentent cette grâce du Saint-Esprit. Donc beaucoup de gens étaient présents. Apparemment, quand on lit dans les Actes, il y a à peu près 15 de nationalités différentes qui étaient décrites dans ce chapitre. Donc je dirais qu'au moins 15 de nationalités, enfin pas nationalités, on dit comment? Ils sont quand même juifs, mais régions différentes, diasporas différentes, 15 diasporas différentes au moins qui se sont réunies. Ça veut dire que ces juifs-là avaient une langue maternelle complètement différente, en fait, aussi. Ils étaient beaucoup plus doués. Enfin, oui, vous savez, quand je parle coréen, je me sens beaucoup plus aisé. Quand je parle en français, j'ai l'impression que... vous avez déjà remarqué que je fais beaucoup de fautes. Mais quand je prêche en coréen, je me sens beaucoup mieux. Hein? Enfin, bref, là, je passe. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à l'aise avec leur langue maternelle. Et puis, au moment de cette manifestation de l'Esprit de Dieu, tout le monde parlait en langue. Et puis, c'était pas une langue morte, c'était une langue connue, reconnaissable par les autres personnes qui avaient leur propre langue. Et c'est pour ça qu'ils étaient tous étonnés, parce qu'ils comprenaient avec leur langue maternelle. Et surtout, surtout, ils étaient étonnés, pourquoi ? Par ce miracle, bien sûr, où ils pouvaient comprendre ces prières ou ces prédications parlées en langue, qui étaient compréhensibles avec leur langue maternelle, mais aussi, deuxième chose, parce qu'ils annonçaient les merveilles de Dieu. Ils annonçaient un message du Seigneur, vraiment de manière intelligible, inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc, ils étaient stupéfaits par l'enseignement. Imaginez, aujourd'hui je prêche, vous savez, je ramenais plein de prédications traduites en espagnol, en albanais, en ukrainien, en coréen, pas en chinois parce qu'ils parlent français, mais en tout cas, imaginez que tout le monde comprenne avec leur propre langue, ça aurait été super, n'est-ce pas? Non? Ce jour arrivera, un jour. C'est déjà arrivé là-haut.
On a déjà eu un témoignage de personne qui a compris.
Oui. Il y avait une personne qui avait témoigné ceci. Mais imaginez que chacun comprend ce que le pasteur dit avec sa langue maternelle. Je rêve ce moment. Mais ça viendra quand même aussi. Je pense que oui, annyeonghaseyo. Ouais. Qui veut dire bonjour. Enfin, voilà. Je lis au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Ils étaient complètement stupéfaits par cet événement. Ils étaient étonnés. Mais il y avait aussi des gens qui se moquaient de ce qui se passait en se disant que ils sont ivres. Ils sont ivres. Alors Pierre s'explique en disant que non, on est au matin. Ils ne pouvaient pas être ivres. Et Pierre apporte une explication en parlant de la prophétie de Joël. C'est la première prédication de Pierre. C'est la première prédication. Imaginez, il savait pas qu'il y aurait une aussi forte manifestation du Saint-Esprit de Dieu. Et puis, voilà, les gens parlent en d'autres langues. Les gens, et puis voilà. Et les gens, donc les non-disciples, qui voient de mauvais œil, se plaint, se moque de tout ce qui se passe. Et là, Pierre prend le courage. Et sans préparation, parce que là j'ai dû préparer pour la prédication, mais sans préparation, il va au devant de la scène pour prêcher. Et il dit, cet événement que vous êtes en train de vivre, ça a été déjà prononcé, prêché, prophétisé dans l'Ancien Testament. Et il apporte la parole de Joël. J'aimerais vous lire, donc dans les Actes toujours, chapitre 17 et 18, versets 17 et 18, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vraiment très intéressant. Comme prédication qu'il a pu apporter aux gens qui étaient sur place. Je relis dans Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voilà, donc ça correspond bien avec la parole qui a été prononcée par Pierre. Je continue la lecture. En tout cas, il est dit dans les derniers jours. C'est quoi les derniers jours? Les derniers jours, c'est, on compte en général après déjà le baptême du Saint-Esprit, donc à partir de Pentecôte, où le Seigneur accorde son esprit à tout le monde. Dans les derniers jours. Donc, c'est le comment, avec le commencement de l'histoire de l'Église primitive, l'Église tout court, avec un grand E, on commence ce temps des derniers jours. Au verset 19, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Dans ces deux versets, ce n'est pas les derniers jours, mais plutôt avant l'arrivée du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est un jour très particulier. Il se situe dans le temps du retour de Jésus. C'est un temps de manifestation de la colère de Dieu, mais aussi de ses jugements sur cette terre. Donc il faut différencier entre le jour du Seigneur et les derniers temps. En tout cas, Pierre avait vraiment apporter ce message avec intelligence, inspiré sûrement par l'Esprit de Dieu. Il a pu vraiment discerner, selon la situation, pour apporter cette compréhension de Dieu. Que vraiment, je souhaite que l'Église de Vendeuvre puisse aussi apporter le discernement et la compréhension lorsque des événements arrivent dans cette Église. Au verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Oui, juste avant que le Seigneur arrive, et même depuis l'arrivée du Saint-Esprit, celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Voilà le message central. que ce soit, c'est un message d'espérance et de salut. Malgré les difficultés des derniers temps, derniers jours, lorsque nous appelons au secours, le Seigneur est présent, sera présent. Non seulement il est présent maintenant, mais il nous sauve aussi aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut invoquer son nom. Pierre raconte tout d'abord après l'histoire de Jésus, en disant que dans sa prédication, que c'était le Messie qui est mort et ressuscité. Ce Messie était attendu par nos ancêtres. Et il, non seulement dans ses rappels avec Joël, il parle de la manifestation du Saint-Esprit, mais avec les versets qu'il cite dans Psaume 16, parce que les versets qui vont suivre, ce sont les Psaumes 16. On voit l'événement qui a été attendu par le roi David et maintenant réalisé avec l'œuvre de Jésus-Christ. Je vous lis, c'est un long verset, mais quand même je vais vous lire. Après, je vais conclure. Dieu l'a ressuscité, verset 24, en le livrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, donc ça c'est dans Psaume 16, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » On voit vraiment l'histoire du salut qui a été prévue, et même que Jésus ne sera pas dans la corruption. « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. » La corruption. La résurrection. Il n'est pas resté dans la mort, mais il est ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il est en train de dire, oui, cet événement s'est passé. Jésus est mort, ça vous avez tous vu, mais il est aussi ressuscité. Nous sommes témoins. Et dans 1 Corinthiens 15, nous voyons que il y a des témoins qui ont été présents au moment de l'ascension de Jésus. Et dans la Bible, il est dit que 500 personnes a pu rencontrer Jésus après sa résurrection, pendant 40 jours. Donc, lorsque Pierre prêche, il y avait déjà 500 personnes qui avaient vu Jésus et qui avaient déjà commencé à prêcher, qu'ils avaient rencontré Jésus. Et donc, cette parole n'était pas anodine. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Voilà tout ce qui s'est passé ce matin, aujourd'hui, ce n'est pas au hasard. Jésus avait prévu, prédit, prophétisé et ça s'est réalisé aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de dire. Car David n'est point monté au ciel, mais il lui a dit, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et oui, il est monté au ciel maintenant. Oui, il était un soutien pour David, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je continue la lecture. Il a fait une super prédication. Les Juifs qui ont entendu cette prédication, ils avaient l'habitude de tous ces versets Pierre a pu réciter. Donc, ça leur a vraiment parlé. Et ils avaient déjà entendu aussi les miracles réalisés par Jésus auparavant. Et maintenant qu'il y a des témoins qui ont vu en chair et en os Jésus, et qu'ils ont vu aussi des miracles de leurs propres yeux, de leurs propres oreilles, ce miracle qui s'est produit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Je souhaite vraiment que, à travers vos témoignages de ce matin, mais aussi vos témoignages dans la vie courante, que les cœurs soient touchés par chacun d'entre vous. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. 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 Voilà. À l'aide du Saint-Esprit, Paul prêche. Et avec une seule prédication, il y avait des milliers de personnes, mais il y avait des gens qui ont entendu ce message et 3000 se sont convertis. 3000 personnes. Oui, c'est Pierre qui prêchait. Oui, oui. J'ai dit quoi? Paul, pardon. Bon, c'est bien, t'es attentive. Oh, t'es attentive. Ouais. Du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, dans 1 Corinthiens 14, 5, il est dit, Paul dit, je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous puissiez transmettre des messages divins, comme a fait aussi Pierre. C'est bien d'avoir, bien sûr, un temps de prière tout seul ou même en groupe, en langue même, pour approfondissement de sa foi, pour, voilà. Mais, il est dit aussi dans 1 Corinthiens 13, 1, « Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. » C'est vrai qu'on privilégie, notre Église privilégie d'abord, en premier, la priorité, c'est l'amour. L'amour de Dieu est l'amour du prochain. Ça, c'est sûr. C'est une chose faite, plutôt un objectif clair. Mais pas contre. Il ne faut pas négliger les autres dons accordés par l'Esprit de Dieu. Car ces dons-là permettent de nous édifier davantage, de nous fortifier davantage. Et même dans 1 Corinthiens 14, il est dit, ainsi donc, frères, aspirez au don du prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Aspirez au don. Le Seigneur nous appelle, nous rappelle que, bien sûr, notre priorité, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais il faut aussi aspirer. Autrement dit, il faut désirer les dons du Saint-Esprit avec lesquels nous pouvons aussi enrichir l'Église avec les dons de chacun. Ainsi, nous porterons des fruits de l'Esprit de Dieu, bien sûr, avec l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des traits de caractère déjà présents en Christ. Et nous ne pouvons pas les avoir en essayant de les obtenir par notre propre effort. Ce n'est pas possible. Mais si nous voulons que ce fruit de l'Esprit de Dieu grandisse en nous, nous devons associer notre vie à celle de Jésus, à celle de l'Esprit de Dieu, et faire des efforts pour le ressembler davantage. Que vraiment notre Église de Vendeuvre puisse faire plus d'efforts, faire un pas de plus pour être remplie et de l'Esprit de Dieu et aussi œuvrer pour le Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur parce que avant que l'Église, la vie de l'Église commence, tu as accordé à tes disciples ton Esprit pour leur faire savoir, pour leur faire connaître ta sagesse, ton intelligence, et aussi pour pouvoir les diriger, ou plutôt les inspirer. Seigneur, nous te confessons que nous avons aussi toujours besoin d'être rempli. Merci Seigneur parce qu'un jour, tu es venu à notre rencontre et tu nous as, par ta grâce, nous as accordé ton pardon, tu nous as accordé la foi, tu nous as accordé ton esprit depuis ce jour, depuis notre confession, et tu demeures en nous, tu nous accompagnes. Et parfois, Seigneur, nous te délaissons. Nous ne mettons pas toi comme première place dans ma vie personnelle. Seigneur, vraiment à travers la prière, à travers notre intimité avec toi, que nous puissions vraiment développer cette relation avec toi. Merci encore que cet esprit soit rempli parmi tes disciples. Et encore, nous te demandons aussi ce matin de nous remplir par ton esprit, que cet esprit vraiment nous anime aussi pour mettre en pratique l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Merci aussi à chacun de désirer davantage, Seigneur, et de leur donner, Seigneur, ce désir ardent pour être aussi rempli de toi, rempli des dons de l'Esprit de Dieu. Et oui, sois avec nous. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen.